J'ai découvert hier, sur une colline proche de Toulouse, un jardin botanique, merveilleusement bien entretenu par des bénévoles, et une allée de grands arbres que des panneaux nous aidaient à identifier. Chêne, orme, hêtre, charme, troène, micocoulier, nerprin, érable, prunellier, robinier, appelé aussi faux acacia, et d'autres noms savants que j'ai oubliés. Je m'y suis promené avec bonheur et curiosité. C'était comme si, en plus de la beauté du lieu, on me faisait le cadeau de m'expliquer ce que je voyais. Il faut dire que la lumière d'automne, le bleu tendre du ciel, le jaune et le rouge des feuilles caduques, le vert des arbres au feuillage persistant, tout cela composait un tableau romantique, en plus de la leçon scientifique, donnant à ma visite une sorte de plénitude. Et surtout, comme croyant, était pour moi une occasion d'action de grâce. Des versets de psaumes me revenaient en mémoire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les collines sont bordées d'allégresse. Que jubile la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. Le cœur en fête, je lisais dans la nature comme un livre ouvert. On dit justement que Dieu nous parle de deux manières complémentaires, par la nature et par la Bible, par la création et par la révélation. Au Moyen Âge, on prenait volontiers l'image des deux livres, celui de la nature et celui des Saintes Écritures, tous les deux ouverts devant nos yeux, tous les deux habités par la sagesse de Dieu. Appliquée à la nature, cette image du livre est très intéressante. Elle nous invite à ouvrir les yeux sur le réel et pas simplement à l'habiter ou à le supporter. Elle nous montre le monde comme étant plein de sens et pas seulement comme un donné à exploiter. Elle nous invite aussi à réfléchir à la science, ce que je voudrais faire ici brièvement. Dès l'époque médiévale, en parlant de la nature comme d'un livre, on posait, sans le savoir peut-être, les bases de la démarche scientifique. Puisque la science étudie les phénomènes de la nature un peu comme on se penche sur un texte pour en comprendre le vocabulaire et la grammaire, les mots et le style, autrement dit, en langage scientifique, les éléments et les lois. Si la nature est comme un livre, il vaut la peine de s'attaquer à ce texte pour le déchiffrer ligne à ligne, pour l'observer à la loupe, voire au microscope. Et c'est bien ce que font les savants depuis si longtemps. Au fil des siècles, la science nous en a appris de plus en plus sur la nature, comme livre, sur les lettres qui le composent, autrement dit les atomes et les particules, sur les principes qui le régissent, autrement dit les lois de la physique. Nous avons inventorié, analysé, classé presque tous les êtres qui nous entourent, et nous avons repéré de quelle manière, régulière, codée, mathématique, se produisent presque tous les phénomènes. Si la nature est comme un livre, nous l'avons presque entièrement scanné, numérisé. Le problème, c'est peut-être que nous avons perdu de vue l'auteur du livre. Nous connaissons la composition de l'encre avec laquelle il est écrit, mais nous ne voyons plus la main qui l'écrit. Le nez sur le papier, nous sommes devenus myopes. Nous faisons le compte des signes, mais nous avons du mal à en comprendre la signification, à en recevoir le message et surtout à en identifier la signature. Nous scrutons la création, mais nous ignorons le créateur. Nous observons le chef-d'œuvre, mais nous n'admirons plus l'artiste. D'où ce paradoxe qui serait assez facile à vérifier, c'est qu'au moment même où nos connaissances scientifiques sont de plus en plus précises et poussées, elles sont de moins en moins éclairantes. Notre ignorance sur le fond des choses grandit en même temps que notre capacité à en explorer les détails. Faute de vision d'ensemble, nous nous enfonçons comme dans un abîme. Imaginez un critique de cinéma, très compétent, mais qui devient aveugle. Que peut-il dire de la valeur d'un film? Quelle sera la pertinence de son propos? Elle ne sera pas nulle, mais quand même très limitée. Imaginez un botaniste atteint de cécité et qui, pour identifier les plantes, n'aurait plus que l'odorat, le goût, le toucher. Comment va-t-il faire? Il va tâtonner. Ou encore, imaginez-vous dans un jardin magnifique du type de celui que je viens d'évoquer, mais qu'on vous fait visiter les yeux bandés. Quel dommage, quelle pitié. Ainsi notre savoir, s'il n'est pas éclairé comme par une lumière plus haute, reste fragmentaire et amputé. La création nous demeure indéchiffrable tant que nous n'en comprenons pas le langage, c'est-à-dire le secret. Le jardin terrestre, pour être lu à livre ouvert, exige que notre propre cœur s'ouvre à son mystère. Disons-le autrement, tout savoir présuppose un savoir du savoir, une connaissance de la connaissance, et c'est ce que les anciens appelaient la sagesse. Car il ne suffit pas à notre intelligence d'emmagasiner des informations, il lui faut s'en nourrir, en percevoir le sens. Qui d'entre nous visite un jardin botanique dans le seul but de lire des étiquettes, d'acquérir un savoir encyclopédique? À part quelques scientistes bornés, on les appelle positivistes. Qui peut réduire notre connaissance du réel à un inventaire de faits, à une collection d'observations, sans aucune interrogation sur l'insondable beauté du monde? Comme disait un ami poète, et dire qu'il y a des hommes qui regardent les fleurs d'un air de compétence. Le paradoxe est que cette compétence dont certains se font une fierté est en réalité une pauvreté, une indigence. L'excès d'intelligence nous fait tomber dans une profonde ignorance. Je ne dis pas cela pour déprécier la science, mais pour la situer sur un horizon plus vaste. Le jardin du monde s'offre à nous, non pas pour que nous le déchiquetions, que nous le mettions en miettes, mais pour que nous entrions dans son offrande, et que nous-mêmes nous offrions ce monde à celui qui l'a créé. Alors, chers amis, visitons les jardins, levons les yeux vers les arbres, étudions la nature, avec autant d'émerveillement que de curiosité. Et tant pis ou tant mieux si nous ne retenons pas le nom de toutes les espèces. D'ailleurs, qui les connaît toutes? Mais ce grand livre de la nature, Dieu veuille qu'il y ait toujours des botanistes et des bénévoles pour nous aider à l'admirer.